Ils sont au cœur de nos territoires urbains partout dans le monde. Ce sont les grands ensembles, les centres commerciaux, les gratte-ciels et les grands projets. Pour le philosophe de l'urbain Thierry Pacaud, ces projets érigés au nom du progrès sont en réalité dévastateurs, tant sur un plan environnemental que sociétal. Les éditions de La Découverte rééditent son ouvrage « Désastres urbains », sous-titré « Les villes meurent aussi ». Une critique virulente du modèle actuel, mais aussi une réflexion pour imaginer la ville sous d'autres formes. Thierry Pacaud est mon invité et vous pouvez bien sûr lui poser toutes vos questions pour parler de la ville dès maintenant au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour.
Et vous repassez au vert dans quelques minutes.
Avec la journée nationale de la qualité de l'air, on va respirer un bon coup.
Ça nous fera du bien. Dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Maxime Combes, le porte-parole d'Attaque France. Il va nous parler du guide des bonnes pratiques pour les personnes qui souhaitent faire la grève du climat vendredi et samedi. Le feuilleton de la semaine avec un nouvel épisode sur le quotidien de notre famille zéro déchet. Et puis enfin, notre invité découverte est le champion du monde d'apnée, Morgan Bourkis, qui a décroché la semaine dernière un troisième titre de champion du monde dans sa discipline. Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré réalisée par Valérie Ayestaraï.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Les besoins de l'agglomération parisienne, qui s'accroît chaque année de 200 000 résidents, impose de voir gigantesques. Construites de toutes pièces à quelques kilomètres de la vieille capitale, de véritables villes nouvelles s'édifient. L'ensemble de Sarcelles est conçu pour 48 000 habitants, la population de Bourges. Mais s'il possède tous les équipements d'une ville, centre commercial, école, poste, mairie, il lui reste à en trouver l'âme, une âme de cité.
Ah, c'est beau ça, c'est en 1962. Bonjour Thierry Pacaud.
Bonjour.
Ça vous plaît ce qu'on vient d'entendre?
C'est magnifique, ouais. C'est même émouvant.
Ouais, vous êtes philosophe de l'urbain et les éditions de La Découverte rééditent votre ouvrage « Désastres urbains, les villes meurent aussi », un livre qui montre que la plupart des grands projets d'urbanisation, sous prétexte de modernité, défigurent l'espace sans prendre en compte leurs effets sur l'individu et bien sûr sur l'environnement. Alors, 5 ans après la première édition, le constat est là, les désastres environnementaux, comme les désastres urbains d'ailleurs, se sont aggravés et les deux vont ensemble, c'est ce que vous nous montrez.
Oui, c'est ce que j'essaie d'expliquer et je suis quand même assez triste, hein, pas du tout content d'avoir pointé des choses qui se sont vérifiées par la suite. J'imaginais qu'on allait construire moins de gratte-ciel qui sont énergivores, quoi qu'il arrive, parce qu'évidemment, il y a toujours un architecte qui va dire « oui, je vais mettre une petite éolienne en haut et l'affaire sera réglée » ou « je vais faire un mur végétal ». Non, non, ça marche pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Et puis, on le sait très bien, il y a eu plein d'études, un centre commercial qui s'ouvre, c'est un centre-bourg qui meurt. Ça c'est clair et net. Et puis en plus, il y a une empreinte carbone inouïe, puisque tout d'un coup, on fait converger dans un seul centre commercial des milliers d'automobiles. Donc, si on élargit la focale sur le monde entier, ou sur la Terre, on s'aperçoit que les 5 dispositifs architecturaux urbanistiques que je critiquais, que j'analysais, oui, sont présents massivement, et de plus en plus, fait que si chez nous, en France, un ménage de 2-3 personnes décide d'aller à une AMAP, décide d'aller dans un magasin bio coopératif, etc. Et ne plus aller dans un hypermarché, c'est bien. Ce sont ce qu'on appelle des éco-gestes. Mais c'est finalement dérisoire à l'échelle planétaire où des centres commerciaux qui sont gigantesques, qui sont aussi fous que le projet d'Europa City
en région parisienne.
En région parisienne, un centre commercial vient d'ouvrir dans la banlieue du Caire avec une piste de ski. Alors on sait très bien que pour l'entretenir, il faut maintenir une température de moins de 2 degrés toute l'année.
C'est le cas à Dubaï aussi, ils ont fait ça depuis très longtemps.
C'est le même promoteur, du reste.
Ouais. Alors vous illustrez donc ce désastre urbain avec 5 objets d'étude, donc on l'a dit, le centre commercial, le grand ensemble, le gratte-ciel, ce que vous qualifiez de grands projets inutiles comme le Grand Paris, et puis le gated community, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors,
ça
veut dire une ville fermée, tout simplement, qui a une porte, une gated, une gate.
Et on en trouve en France.
Évidemment, c'est
très
ancien.
Il y en a plein.
Il y en a plein, c'est très ancien. Oui. Ça a commencé dans les années 80, dans la région toulousaine, avec un promoteur immobilier qui s'appelle Monet Descroix, qui pensait pas toucher le jackpot, mais finalement, ça s'est développé. Et on en trouve à Dijon, on en trouve à Nantes, on en trouve à Bergerac, on en trouve dans toute la banlieue parisienne. Alors, il y a tout un éventail de gammes possibles. C'est-à-dire que ça peut être la gated community à l'américaine, très riche, avec des villas de luxe, avec un golf qui est au centre de la gated. Et puis, ça peut être simplement des ensembles résidentiels fermés, avec une vidéosurveillance, avec une seule porte d'entrée où là, il y a des vigiles, et puis des chiens, et puis c'est tout. Quoi. Ouais. Donc, à l'échelle planétaire, c'est aujourd'hui le premier produit immobilier. On en bâtit en Inde, on en bâtit en Chine, etc. Et pour des raisons différentes. En Amérique latine, incontestablement, c'est l'aspect sécuritaire qui l'emporte. Mmh. Parce que, et je ne le croyais pas, mais c'est la vérité, on peut très bien kidnapper un enfant au Venezuela, au Mexique, au Brésil et demander une rançon. Donc les parents se disent, on va résider dans un lieu qui est un peu protégé.
Mais bon. Pas à Toulouse et à Nantes.
Non, voilà. Alors là, il y a des études qui ont été faites par des géographes français sur la ville de Nantes. Et ils expliquent très très bien, là, c'est plutôt la tranquillité. D'une part, ne pas avoir des voisins bruyants, et puis c'est aussi protéger son automobile, qui appartient à la famille quand même.
Thierry Pacaud, en prenant ces cinq objets architecture urbanistique, pour reprendre les termes, vous dressez finalement un bilan très sombre de la ville aujourd'hui. Rien ne trouve grâce à vos yeux aujourd'hui dans l'architecture et dans l'urbanisme?
Si, mais c'est ce que j'appellerais une minorité. C'est-à-dire qu'il y a, donnons un peu de courage et d'enthousiasme à ceux qui nous écoutent, tout n'est pas perdu. Il y a de plus en plus d'architectes, de designers, de paysagistes plutôt jeunes qui veulent rompre avec le béton. Pour parler très clair, donc le béton, le vitrage, l'acier. Et puis qui imagine ce qu'on appelle low-tech, l'opposé de high-tech, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup moins énergivore et de beaucoup plus près de la demande des habitants eux-mêmes.
On revient d'ailleurs à des pratiques ancestrales, c'est-à-dire que les architectes s'inspirent vraiment de pratiques très anciennes.
Voilà,
pratiques
vernaculaires, mais ils sont quand même très peu nombreux. Et puis si l'on regarde les lieux de formation, c'est pas encore acquis. On continue à enseigner comment fabriquer un gratte-ciel en béton, et puis même à faire croire qu'on peut les verdir, c'est-à-dire qu'on peut donner une touche écolo à ce type de bâtiment. Ce n'est pas possible.
Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé en 5 ans depuis la sortie du livre, finalement? C'est une nouvelle ère là qui s'est ouverte, parce qu'il prend vraiment si beaucoup d'ampleur, finalement, ce texte, à la lumière de ce qu'on vit aujourd'hui autour de l'environnement et de la conscience.
Oui, absolument. C'est-à-dire que je crois, pour aller très très vite, c'est que j'expliquais que le grand ensemble, on est très peu ensemble. Le centre commercial, on n'échange plus. La guettine, on est enfermé entre soi. Le gratte-ciel, c'est une impasse en hauteur. Et le grand ceci, le grand cela, finalement, crée une sorte de nouvelle territorialisation qui rend étranger à son propre territoire celui qui y réside. Ouais.
Vous dites finalement, tous ces exemples, c'est l'enfermement et l'assujettissement. Oui. Si on résume en deux mots, c'est ça.
C'est
finalement,
ça. C'est ça. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ces deux termes parce que je voulais pas dire aliénation, c'était pas tout à fait ça. C'est vraiment ça. Parce qu'il y a un aspect d'assujettissement volontaire. On vous oblige pas à aller dans une résidence sécurisée. On vous oblige pas de faire vos courses au centre commercial. Il y a des gens qui prennent plaisir. Ils sont très heureux.
Vous n'y allez plus au centre commercial. C'est fini maintenant.
C'est fini.
Vous, les lumières, la vidéo partout, la pub à gogo.
Je supporte pas.
Non. Vous dites que c'est le temple de la consommation, finalement.
Et qui nous transforme tous en consommateurs de tout, y compris de la ville. La ville qui était un bien commun, pour prendre une expression qui est à la mode, que je partage qu'à moitié, mais peu importe, la ville qui était le lieu de trois qualités, l'urbanité, la diversité et l'altérité, aujourd'hui est quelque chose qu'on va consommer. On dit, la semaine prochaine, on va se faire un ciné, et puis on se fera un resto, puis on se fera un peu de ville.
Ouais.
Voilà. Et donc, ça va être des ersatz de ville. Alors que moi, je rêve de renouer avec une ville qui est à la dimension humaine.
Et où les habitants prennent part aux décisions, parce que c'est ça qui est important pour
vous. Toujours sollicité.
Ouais. C'est un livre très politique aussi, Thierry Pacaud. C'est une
critique directe. Oui, mais le mot politique dérive de police.
Oui, mais c'est ça. Donc très bien, on peut le prendre comme ça aussi. Mais c'est une vraie critique du capitalisme, quand même.
Ah oui, indirectement.
Mais même très directement. Parce que quand on vous lit, c'est très direct. Il n'y a pas de contour. Bon, on se retrouve dans un instant pour en discuter avec les auditeurs, pour avoir également leur perception de la ville aujourd'hui, savoir s'ils sont d'accord un petit peu avec ce que vous venez de nous dire, et puis comment ils la rêvent, peut-être aussi. 01 45 24 7000, on en discute avec vous dans un instant.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Cronier, ce 18 septembre, eh bien, c'est la journée nationale de la qualité de l'air. Et vous nous emmenez respirer où alors?
Alors, j'étais bien tentée d'aller nous faire prendre un bon bol d'air arrosé dans la Loire, commune la moins polluée de France, ou carrément, soyons fous, à l'autre bout du monde, en Tasmanie, qui aurait la chance d'avoir l'air le plus pur sur Terre. Inspirez fort, Mathieu. Ça fait du bien.
Merci.
Bon, non, cliché, tout ça. Je vous emmène plutôt dans la circulation. Ah, on est bien là aussi, franchement, non? En plein milieu des voitures, parce que ce sont elles qui polluent le plus, presque un tiers des émissions de gaz à effet de serre françaises, devant l'agriculture et devant l'industrie. Me voici donc à slalomer sur mon petit vélo dans les embouteillages. Un peu provoque, je vous préviens. Bonjour.
Bonjour.
Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de la qualité de l'air?
Non.
Bon, du coup, on voulait vous remercier d'y contribuer.
Ok, pas de soucis.
Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la qualité de l'air.
Ah.
Du coup, je voulais vous remercier d'y contribuer.
J'écoute la radio, là.
Ah, alors, pas content, hein, certains, d'être cueillis comme ça, pendant que d'autres assument.
Quoi? Non, ça ne me gêne pas, moi. Ça vous gêne, vous?
Bah, je pollue tous les jours. Je ne suis pas la seule à polluer. Voilà, moi, je ne veux pas m'auto-flageller en disant, bah, je pollue et tout. Mais à coup le pas, non.
Non, oui, non, ça me fait... Oui, je suis pas fière. Hein. Voilà. Mais c'est comme ça.
Moi, je suis chirurgien, donc j'ai pas le temps, il faut que j'aille vite. Donc voilà, c'est la moto. Bonne journée.
Voilà, parce qu'il y a aussi, Mathieu, la bonne excuse. Hein, donc là, en l'occurrence, le « je suis chirurgien, il faut que j'aille vite ». Tout le monde a une bonne raison.
J'ai pas le choix.
Oui, je sais, je pollue, mais je peux pas faire autrement.
Qu'est-ce qu'on peut faire? On est obligé de travailler.
C'est soit j'ai un camion et une voiture et je pollue plus. Avec les deux, soit j'ai ça.
J'ai un âge où j'y ai droit quand même, j'ai 87 ans, alors je crois que quand même, je pollue pas beaucoup. C'est très très peu de kilomètres par jour en plus.
Ah, vous pouvez pas faire autrement?
Non. Impossible.
Pourquoi?
Parce que je suis avocat et je suis très souvent en réunion, en audience, etc. Et je prends ma voiture et j'accompagne mes enfants à l'école aussi. Mais,
et alors, il est au volant de quoi, le monsieur?
Mon voiture, c'est une Porsche Macan.
C'est une grosse voiture, c'est...
C'est pas plus une grosse voiture que celle-là, mais vous ne l'avez pas interviewé, lui, parce que c'est une Mégane.
Alors, je vais la voir, la Renault, du coup, hein, à l'intérieur. Devinez quoi? Eh ben, on se défend encore, décidément.
C'est de l'essence en plus, donc la pollution, on va dire qu'elle est quasi nulle.
C'est plus le gasoil qui pollue.
Il y a d'autres usines qui polluent plus que la voiture au moins.
Ok, bon, je vous laisse parce que je gêne tout le monde. Ouh là là. Voilà le tournage au péril de ma vie.
Mais oui, c'est dangereux ce que vous faites.
Alors, ils ont beau avoir des excuses, tous ces automobilistes sont évidemment conscients de la pollution de l'air, responsable, je le rappelle, de 48 000 morts par an d'après une étude de Santé publique. C'est plus que l'alcool, mais quelle solution? Passer à l'électrique, c'est cher et ça agace, par exemple, ce chauffeur de taxi.
Maintenant, ils veulent nous virer le gasoil et nous mettre à quoi? À la betterave? À l'éthanol?
Résultat dans la bouche d'un autre automobiliste.
Effectivement, entre protéger la nature et protéger mon porte-monnaie, à un moment donné, on ne sait plus très bien comment faire.
Alors la pollution de l'air, les pouvoirs publics s'en sont emparés avec des mesures comme la réduction de la vitesse sur le périph à Lyon, à Lille, à Paris, les journées sans voiture ce dimanche dans la capitale et des instruments de mesure ultra performants, mais 40 millions de véhicules en circulation en France, dont 69% de diesel, record d'Europe, et des comportements, donc vous l'avez entendu, qui ne changent pas ou très peu. Du coup, question, est-ce qu'au volant, en fait, on oublie le changement climatique? Je l'ai posé cette question au sociologue Hervé Marchal, il est en Lorraine, spécialiste de notre rapport à la voiture.
C'est pas parce qu'on prend sa voiture qu'on est insensible à ce qui se passe autour, mais le bénéfice d'être dans sa voiture, dans un habitat privé, l'emporte. Et ça rejoint toutes nos ambivalences, en fait. Et on sait par ailleurs qu'effectivement, c'est pas très bon pour l'environnement. Mais en même temps, c'est un coût trop important au niveau de mon quotidien et de mon inconfort.
Voilà le fameux « je sais, mais » et nos freins cognitifs encore eux à changer nos habitudes pour des choses parfois moins pratiques ou moins confortables, sachant enfin que l'air extérieur est pollué, mais que dans l'habitacle de la voiture, c'est encore pire. Bonne journée de la qualité de l'air à tous quand même.
Merci beaucoup Camille Cronier. Écoutez sur franceinter.fr. Je suis sûr que vous avez une question pour Thierry Pacaud parce qu'on est pile dans le sujet.
Exactement. Alors Le Monde avait fait un calcul à Paris. La moitié des 2800 hectares de voies publiques sont réservés à l'automobile. Est-ce que ça fait partie du problème?
Ah bah évidemment. L'auto, que moi j'appelle l'auto immobile, puisque 95% de la vie d'une automobile c'est d'être à l'arrêt.
C'est vrai.
Donc d'occuper un territoire gigantesque qui est généralement asphalté, donc imperméabilisé, etc. Non, en fait, c'est l'automobile a une part de responsabilité inouïe dans la typomorphologie des villes, dans son organisation, dans la multiplication des voies autoroutières qu'on continue en France à élargir du reste. Hein. Et donc tant qu'on n'aura pas réglé la question de cette mobilité ordinaire, on aura toujours évidemment ces méfaits sur la qualité de l'air. Alors que faire? Parce que les réponses sont tout à fait intéressantes, effectivement.
Mais vous l'imaginez sans voiture, la ville, ou pas?
Oui. Je pense qu'on peut, mais c'est plus les mêmes villes. On peut pas, c'est pas les mégalopoles de 20 millions d'habitants. Ça, c'est pas possible. Même 20 millions d'habitants ou 14 pour la région parisienne, avec un réseau, mettons, de voies ferrées, de tramways, d'autobus performants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça pourrait dissuader les gens de prendre des automobiles. Mais on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une offre. D'abord, il faudrait que les autos soient en libre accès, comme les vélos aujourd'hui, gratuites. On la prend, on la laisse là, on la reprend. Mais pour ça, il faut aussi que les consommateurs de ça respectent, évidemment, qu'il n'y ait pas de vandalisme. Enfin, donc, il y a plein d'idées. Et ça nécessite une conscientisation qui commence tout doucement. Peut-être que par l'école, espérons que ça pourrait marcher, au lieu d'enseigner le code de la route aux petits-enfants, avec des gendarmes très gentils qui viennent expliquer comment ça fonctionne, qu'on mette en avant le code de la rue. Et là, on avancera dans autre chose.
Thierry Paco, vous restez avec nous, vous êtes notre invité. Désastres urbains, on en parle avec les auditeurs de la Terre au Carré. I like to see everything in neon. Drink lime green, stay up till dawn. Maybe the way that I'm living is killing me. With a song, do shit to keep me turned on. But one day I woke up like maybe I'll do it differently. So I moved to California, but it's just a state of mind. It turns out everywhere you go, you take yourself, that's not a lie. Wish that you would hold me or just say that you were mine. It's killing me slowly. Lana Del Rey sur France Inter.
La Terre au Carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux, c'est-à-dire des logements faits pour les jeunes couples qui démarrent, hein, pour les ouvriers, pour les ménagers, mais aussi peut-être pour les chômeurs. Hein. Tout ceci dans le plan d'une restructuration des plans de secteur visant à vaincre la solitude du troisième âge en l'intégrant à la population active. C'est une chouette idée. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique.
Voilà la voix de Benoît Pulvord dans ce film C'est arrivé près de chez vous, et Thierry Paco est notre invité. Vous êtes philosophe de l'urbain, et ce livre donc qui est réédité par les éditions de La Découverte, Désastres urbains, les villes meurent aussi, et les auditeurs ont plein de choses à vous dire au standard, sur le mail de La Terre au Carré, et on va commencer avec Gilles qui nous appelle de Lyon, hein. C'est ça Gilles, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous, on écoute votre question.
Voilà, ben je vous appelle parce que je suis concerné à Lyon, parce que les écologistes, ou soi-disant écologistes de ma ville, soutiennent la construction de tours au motif que les nouvelles tours seraient écolo parce qu'elles seraient moins énergivores que les anciennes. Que pensez de cet argument? Est-ce que des tours peuvent vraiment être écolo?
Alors Thierry Paco, bonne question. Merci Gilles.
Oui, ben, en l'état actuel de nos connaissances, la réponse est non. J'indique dans mon livre énormément de rapports américains et anglais et australiens qui ont analysé la consommation énergétique de centaines et centaines d'immeubles de grande hauteur, comme on dit.
L'impact
et,
sur la biodiversité
voilà,
aussi.
Et,
hein.
Voilà, et l'impact sur la biodiversité, sur les oiseaux, etc. Bon, la réponse est non. Alors, l'argument est effectivement, je l'ai déjà aussi entendu de la part d'écologistes, je me souviens d'un débat à Rennes, où un élu écolo disait, il faut absolument créer des tours, on ne peut pas faire autrement, et puis on va faire des tours propres, des tours écolos. Non. Par ailleurs, indépendamment du coût énergétique des matériaux nécessaires à la fabrication d'une tour, ces aciers spéciaux très très sophistiqués, ces vitrages, etc., le béton, etc., il y a le coût de fonctionnement qui est évidemment énorme. Et donc la ville, la vraie ville, celle dont je rêve, c'est une ville piétonne, c'est une ville où je peux manifester mes cinq sens en permanence, et je ne peux pas être enfermé dans une structure où il y a un seul moyen de transport qui est tout bête, qui ne fait que monter ou descendre, qui est l'ascenseur
hein, ouais.
Qui est le premier moyen de transport au monde aujourd'hui.
Ça,
donc,
ouais.
Donc il faut, je pense, rompre avec ça. Quand j'avais fait mon enquête pour un autre livre sur les gratte-ciel, j'avais pas pu, chez Otis aux États-Unis, où j'étais très très bien reçu, je n'ai pas pu avoir le coût moyen d'un voyage en ascenseur. Donc du coup, dans Désastres urbains, se suggère d'acheter des ascenseurs et de les faire à péage. Là, c'est un truc où on gagne beaucoup de fric, surtout dans les maisons de retraite,
oui,
on le fait très cher. Là.
Surtout quand il y a 30 étages, oui, c'est une bonne idée.
Question de Romain sur Twitter, par rapport à votre vision un peu utopiste peut-être de la ville parfois. Comment faire, quelles alternatives pour à la fois diminuer les transports et dynamiser l'emploi? Lui, il est à Rennes, vous en parliez justement.
Je pense que ce qu'il faut faire, évidemment, c'est rapprocher le lieu de l'emploi du lieu de résidence. C'est d'autre part avoir une transformation du monde du travail, peut-être avec les technologies dites nouvelles, mais aussi avec le fait, parce que c'est en train de se développer, avec le précariat, c'est que se développent maintenant des multi-activités. C'est-à-dire que je vais dans les 10, 20 ou 30 ans qui viennent, d'un côté, il y a le danger de la robotisation généralisée, de l'autre, il y a le fait qu'on fera 2 ou 3, 4 métiers dans la même année ou dans la même journée, pourquoi pas. Cette idée d'un travail attractif, on la trouve déjà sous la plume de Charles Fourier, qui est un de mes auteurs préférés, où Fourier dit un enfant à l'âge de 7 ans a déjà pratiqué 35 métiers. Il a été cueilleur de fraises, il a été arroseur du jardin, etc. Bon. Donc, il nous faut imaginer qu'on n'ait pas qu'une seule activité dans un lieu qui est zoné, et qu'on puisse aller d'un lieu à un autre, à pied ou à vélo.
Annick, je vous souhaite la bienvenue dans La Terre au Carré. Bonjour.
Bonjour.
On écoute votre question.
Oui. Je voulais savoir ce qu'il faut penser maintenant des cités radieuses, comme celles qui avaient été implantées dans la banlieue de Nantes dans les années 50 ou 60, et quel est leur avenir.
Et à Marseille aussi.
Et à Marseille.
Hein. Il y avait Le Corbusier aussi à Marseille. Hein.
Alors, Le Corbusier, c'est le même. Il en a réalisé 5, 4 en France et une à Berlin.
Comment ça vieillit? Oui, c'est une bonne question.
Alors, ça vieillit différemment parce que les matériaux de construction ne sont pas les mêmes. Par exemple, le béton de Briey est beaucoup plus déglingué et en mauvais état que celui de Rézé-les-Nantes. La maison du Fada à Marseille a été réhabilitée avec pas mal d'argent qui a été investi là-dedans. Donc, c'est l'idée même de l'unité d'habitation, puisque ça s'appelait comme ça. Plusieurs unités d'habitation constituaient la cité radieuse. L'idée même d'unité d'habitation, moi, me déplaît fortement. Parce que ça veut dire que dans le même immeuble, on a l'école, la bibliothèque, une rue marchande, des appartements qui sont même pas du tout traversants, donc qui sont pas écolos à ce niveau-là. Et puis c'est encore une forme de concentration. Moi, je crois que ce qui est la qualité d'une ville, c'est d'être labyrinthique.
Ouais.
C'est de pouvoir aller d'ici à là.
Oui, vous parlez de l'aspect concentrationnaire des grands ensembles,
absolument.
Hein, justement.
Et Le Corbusier, là-dessus, est redoutable.
Ouais. Stéphane demande, il nous dit, je suis contre les gratte-ciels. Mais comment éviter, du coup, l'étalement urbain spatiophage pour
prendre
un de vos termes?
C'est un terme que j'utilise bien.
Ouais.
C'est très simple, c'est que ça, j'ai compris en travaillant beaucoup sur l'histoire de l'urbanisme, c'est que c'est le même package. Hein. Le centre commercial, l'autoroute, l'éparpillement urbain, hein, l'étalement urbain et le gratte-ciel, tout ça, ça va ensemble. C'est la même logique. Donc, il faut rompre avec cette logique. Et si on a des villages qu'on va réinvestir, qui auront un habitat compact, qui auront un habitat d'une très grande intensité et non pas densité, alors là, on aura une qualité de vie tout à fait différente à une échelle humaine, pour reprendre l'expression de Jan Gehl, l'architecte danois, qui nous explique que la taille maximale d'un bâtiment doit être de 4 étages.
Ah, c'est ça, oui.
Parce que, il y avait une question François qui demandait la taille idéale d'un immeuble.
C'est 4 étages, parce que notre système optique, au-delà de 4 étages, se perd, n'arrive plus à apprécier vraiment les distances, etc., etc.
Robert, bonjour.
Bonjour à tous les trois. Ben, écoutez, vous avez plus ou moins répondu à ma question. La question que je me posais, c'était... quel habitat urbain envisage-t-on ? Parce que moi, je vois de plus en plus même des petites villes bornées par des lotissements où on est souvent très isolé, les gilets jaunes l'ont montré, où on dévore l'espace naturel, l'espace agricole. Donc, vous venez de répondre qu'il ne faut pas dépasser les 4 étages. Mais j'espère que... j'ai rien contre, hein, mais est-ce qu'on peut... se limiter à ça, à 4 étages, et est-ce qu'on peut empêcher encore une fois l'extension des villes de façon un peu sotte, quoi, les lotissements où on est encore une fois isolé des autres. Voilà. Mais vous avez répondu plus ou moins à ma question.
Alors, il y aura un petit complément ring pour vous, Robert, de la part de Thierry Paco.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et du reste, quand je passe et que je vois, dix pavillons plus ou moins semblables avec 10 jardins, 10 barbecues, 10 trampolines, je trouve ça idiot. Il faudrait déjà mutualiser l'ensemble des jardins et puis repositionner chacun de ces bâtiments par rapport aux autres, peut-être pour les rendre mitoyens, pour pouvoir économiser l'énergie, etc. Et donc, je crois que, et je connais des architectes qui font des réalisations beaucoup plus complexes, où chacun a son entrée, chacun a son jardinet, tout ça, c'est, il y a une inventivité architecturale qui est magnifique, qu'on ne salue pas assez, et sur laquelle on n'assiste pas assez. Je donnerai un nom ou deux, Lucien Kroll, par exemple Patrick Bouchain, Philippe Madec, voilà des gens qui travaillent avec une très grande subtilité, mais toujours en partant des habitants.
Et vous parlez d'une hospitalité ouverte. Vous en rêvez, en tout cas, Thierry Paco. Marc nous dit, j'habite à Montpellier, et ne pensez-vous pas que les maires, aujourd'hui, ont un pouvoir abusif pour la prise de décision pour toutes ces infrastructures? N'y aurait-il pas non plus une collision de plus en plus insupportable entre les promoteurs immobiliers et les politiques?
Oui, ben alors là, je ne vais pas entrer dans les dénonciations, mais enfin, l'auditeur le sait, Montpellier est plus particulièrement qu'ailleurs. Il y a vraiment une collusion. Oui, bien sûr, c'est terrible. Alors, ça pose aussi une autre question, qui est celle, on l'évoquait tout à l'heure, de la sensibilité à la question environnementale, et il y a aussi la sensibilité à la question architecturale et paysagère. Beaucoup d'élus n'ont pas le temps, n'ont pas la formation, s'en préoccupent pas. Et l'écologie, c'est une méthode au sens grec du terme, au dos, c'est-à-dire c'est un cheminement qui entremêle en permanence le processus, l'interrelation et la transversalité. Et donc, dans une ville, Montpellier ou une autre, on fonctionne par thème. Chaque adjoint au maire est responsable de parquet jardin, d'école, etc. Il faut transversaliser.
Allez, très vite, dernière
question. Émilie, architecte, qui dit « Je suis choquée de votre présentation sur les responsables des défauts dans la construction de la ville. Il n'y a pas que de mauvais architectes. Il y a surtout de mauvais choix qui sont faits par les clients promoteurs et les collectivités. »
Oui, bien sûr, mais au contraire. Je viens de citer plein d'architectes que je trouve talentueux et magnifiques.
Ah, c'est tout, ça y est, on finit là-dessus, Thierry Paco. Je vous ai demandé de faire une réponse courte, mais alors là, elle est particulièrement courte. Vous êtes d'une efficacité redoutable. Merci beaucoup. Vous écrivez sur quoi, là, maintenant? Sur quoi vous allez réfléchir?
Je poursuis une réflexion sur la... Y a-t-il une juste taille des villes?
Bon, ben vous reviendrez alors.
Ah bah volontiers, oui, oui.
C'est au moins 4 mètres pour les étages. En tout cas, on a déjà appris quelque chose. Merci beaucoup.
4 étages pour les immeubles.
4 étages, magie 4 mètres.
Ça fait 12 mètres.
Désastre urbain, les villes meurent aussi. Thierry Paco, vous publiez cet ouvrage aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup d'être venu nous en parler cet après-midi. Dans la Terre au Carré, merci à vous pour les messages. Et puis juste après les infos, vos solutions pour la planète. Avec aujourd'hui Maxime Combe, il est le porte-parole d'Attaque pour nous parler du guide des bonnes pratiques si vous avez envie de faire la grève du climat vendredi ou samedi.
France Inter, la Terre au carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, un nouvel épisode dans le quotidien de notre famille Zéro Déchet avec Julie Pietri et notre invitée Camille, eh bien ce sera le champion du monde d'apnée, Morgan Bourkis.
Très bien, on va plonger au fond de l'eau.
Il a décroché la semaine dernière un troisième titre de champion du monde dans sa discipline, donc il va nous apprendre peut-être quelques techniques pour faire également de l'apnée dans notre baignoire. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète et nous sommes en ligne avec vous, Maxime Combe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes le porte-parole d'Attaque France qui a signé l'appel à mobilisation sur le climat pour le 20 et 21 septembre prochain et qui propose entre autres le guide des pratiques pour les personnes qui souhaitent faire la grève du climat. Maxime Combe, on peut parler d'une remobilisation finalement pour le climat avec une séquence climatique très très importante là cette semaine et la semaine prochaine.
Ah, c'est une mobilisation effectivement très importante. On a 4500 événements dans 140 pays qui sont déjà enregistrés, plus de 150 en France, et un certain nombre d'acteurs nouveaux qui effectivement se mobilisent également à cette occasion. Il n'y a pas simplement les grèves des jeunes, des étudiants pour le climat, pas simplement les organisations environnementales qui se mobilisent et qui vont marcher ou organiser des actions de désobéissance civile, mais également toute une série de syndicats et de gens issus du monde du travail qui appellent à se joindre à cette mobilisation, et donc du coup ça en fait un enjeu majeur pour essayer de rompre avec le cynisme, l'apathie ou l'impuissance ou même la sidération qui peut nous gagner quand on est confronté au défi du réchauffement climatique. On est souvent à se dire mais qu'est-ce que je peux faire moi dans mon coin? Ben voilà.
Alors
ces mobilisations ont vocation à donner de l'envie et la possibilité à tout un chacun de s'impliquer et d'être partie prenante du changement.
Alors il y a ce guide piloté par 360.org, un réseau international qui vient en soutien aux personnes qui se mobilisent pour le climat. Alors il y a tout un tas de conseils finalement pour mieux s'organiser, parce que finalement là on n'a pas les syndicats au départ de ces mobilisations et c'est un peu l'improvisation et il faut quand même avoir des petites règles de base.
Ben, quand vous avez une mobilisation citoyenne qui est principalement médiée, organisée, informée via les réseaux sociaux, vous avez effectivement un défi tout à fait considérable pour les organisations environnementales, pour les organisations traditionnelles, qui est à la fois d'être au service de ces mobilisations, en aidant, en facilitant, en appuyant, et sans pour autant être au cœur de la mobilisation, sans pour autant déterminer par A plus B, qui va manifester, puisque là, tout un chacun peut s'impliquer. Et donc, du coup, ce guide et ce qui est mis à disposition, un ensemble de ressources, de conseils, d'idées, vise à faciliter la mobilisation de millions de personnes aux quatre coins de la planète. Donc, il est disponible en français, mais également dans toute une série de langues pour permettre et faciliter de l'information, de la mise à disposition d'outils, que les uns et les autres puissent se former également, organiser les initiatives qu'ils ont envie de prendre sur leur lieu de travail, sur leur lieu de vie, sur leur lieu scolaire, faciliter la grève des étudiants quand vous êtes jeune, seul, initialement, vous pensez que vous êtes seul dans votre lycée, eh bien vous avez plutôt intérêt à essayer de trouver des lieux et des espaces relais pour trouver des ressources afin d'organiser votre mobilisation.
Et alors comment on fait pour mobiliser ses collègues de travail ou ses copains à l'école pour se mobiliser vendredi ou samedi ou les deux même?
Et faire la grève.
Bon, il n'y a pas de recette miracle, c'est un ensemble de conseils ou de bonnes idées qu'on met à disposition. Mais la première des choses, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer à travers ce guide-là, c'est de sortir d'une logique uniquement individuelle, c'est-à-dire de passer par le collectif pour faciliter la mobilisation et l'engagement de chacun, et donc du coup de lancer une première discussion, aller à la rencontre de celles et ceux dont on pense qu'ils peuvent partager le même sentiment. Et aujourd'hui, on sait que le sentiment écologique se diffuse dans la population. L'ensemble des feux en Amazonie ou en Asie du Sud-Est sont frappants et donnent envie à tout un chacun de s'engager et donc du coup de
passer par des actions, des photos, des actions de solidarité, des initiatives qui peuvent être prises dans une entreprise. S'il est difficile de faire grève, s'il est difficile de s'absenter, peut-être simplement avoir un moment commun pour une première discussion autour de ces enjeux-là, et éventuellement y compris discuter du sens du travail, du sens de la production et de ce qu'on peut faire à partir de là où on est, là où on vit, là où on travaille. Et donc du coup, effectivement, ce guide vous invite à prendre toute une série d'initiatives, faire du porte-à-porte, aller discuter avec vos voisins ou vos collègues de travail.
Même avec son patron, hein. On peut essayer d'aller discuter avec son patron aussi, Maxime Combe.
On peut aussi discuter avec son patron. Alors c'est pas toujours évident. Par exemple, si vous allez discuter avec Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui hier a défendu le fait de poursuivre devant l'Assemblée nationale les investissements dans les énergies fossiles, vous aurez sans doute quelques difficultés.
Mais on peut essayer pour les plus courageux, ouais.
On peut essayer, et bien entendu. Et par ailleurs, il y a toute une série d'entreprises qui se sont engagées et qui vont faciliter, par ailleurs, les grèves pour le climat ou la possibilité pour les uns et les autres de se joindre aux mobilisations. Et donc, du coup, par exemple, on a également des collectivités territoriales. La mairie de New York encourage les étudiants, les élèves de New York à faire grève pour le climat et à s'absenter de leurs écoles ce vendredi. Et donc, du coup, effectivement, on peut... Parce que si on prend au sérieux la question du réchauffement climatique, ça nous touche tous de façon inégale et avec des responsabilités très variées. Mais donc du coup, il n'y a aucun lieu sur lequel, par définition, il serait impossible d'en discuter ou de se mobiliser.
Merci en tout cas Maxime Combe. Alors pour tous ceux qui sont intéressés et qui souhaitent agréger autour d'eux peut-être des forces vives, il y a ce guide qui est tout à fait intéressant, qui est disponible en particulier sur le site d'Attac, mais pas seulement, 350.org, ce réseau international le transmet. Et puis on a mis le lien évidemment sur la page de La Terre au Carré. Merci à vous Maxime Combe, bonne journée.
Au revoir.
À bientôt. Julie Pietri, bonjour.
Bonjour.
Le quotidien d'une famille zéro déchet, épisode 3 aujourd'hui.
Alors hier, on était sur le marché, course sans sac plastique avec Tupperware. Aujourd'hui, la suite, le retour à la maison, les bras chargés de denrées. Et vous allez le voir, la maison de Grégory, Céline, leurs trois enfants, toujours à Issy-les-Moulineaux, a changé petit à petit avec le zéro déchet.
Hop, donc.
Alors maintenant, il faut décharger.
Ouais, directement dans le frigo. Voilà, ça c'est rapide, ça part pas du tout de temps. Quand on achète en vrac, il faut transvaser dans les pots, mais bon, ça prend quelques secondes, hein. C'est rien du tout, quoi.
Est-ce que votre maison, elle a beaucoup changé en quelques années? Vous pouvez me montrer? On peut faire un petit tour?
Ah oui, oui. Donc là, on a un petit jardin, on avait installé un compost, donc ça c'était la première étape très importante. Comme on consommait beaucoup de fruits et légumes, on s'est dit c'est au lieu de jeter à la poubelle classique, on a installé un compost.
Alors là c'est la cuisine.
Là c'est la cuisine.
Il y a les gobelets en inox.
Et bien aussi.
c'est pas là. C'est là. La paille en inox qu'on ne jette pas.
On a des gourdes en inox même.
T'as quel âge ?
6 ans.
T'as 6 ans et tu sais ce que inox veut dire?
Non. Et par exemple, la cafetière, on va chez le... Comment ça s'appelle? Le
vendeur. Le
torréfacteur. On met le café dedans et au lieu de mettre une capsule.
Ah oui, et ça, pour le coup, c'est la grosse révolution. On est passé au cafetière avec un percolateur et franchement, c'est super. Ah, je vous en ferai un après. Mais ce n'était pas le premier challenge pour moi. Le premier challenge, c'était l'eau gazeuse. Et donc, je consommais énormément d'eau gazeuse, avec des bouteilles en plastique. Par mois, c'était 6 packs, quoi. Et donc, Céline m'a dit, tiens, on va acheter une marque qui fait de l'eau gazeuse en bouteille.
C'est une machine qui permet de faire de l'eau gazeuse.
Exactement.
À domicile, en fait.
Elle est là, elle est au milieu de la cuisine.
Voilà. Voilà,
ah ouais.
Gazeuse est faite.
Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de bouteilles en plastique.
On continue la visite ?
Ouais. Les produits d'entretien, on nous en fait acheter des tonnes, un produit par surface à nettoyer, un produit par pièce. Et en fait, on dépense une fortune en produits ménagers, en désodorisants divers et variés. Pour désinfecter, il y a le vinaigre blanc. Pour dégraisser, le savon noir. Voilà, c'est tout.
Donc, vous faites tout vous-même maintenant ?
Ouais, le produit WC, il y a du vinaigre blanc, de l'eau, du gélifiant alimentaire et des huiles essentielles.
Est-ce que la charge supplémentaire, elle repose beaucoup sur les femmes ?
C'est sûr, si j'avais dit à Greg, à partir de maintenant, on n'achète plus de lessive, par contre, tu vas la faire. Il m'a dit bah non, tout simplement, non, parce qu'il a pas envie de s'embêter.
C'est pas une notion, c'est pas une notion d'homme ou femme. C'est parce que dans notre famille, c'est plutôt toi qui gères un peu plus tout ce qui est lessive et tout ce qui est entretien de la maison par rapport à moi, dû au fait que
quasiment toutes les familles françaises. Hein. Bah... Et en fait, c'est la deuxième évolution. En fait, je trouve qu'elle est un peu dans trouver des solutions alternatives pour pas passer sa vie non plus à être esclave de ça. Parfois, j'ai pas le courage, j'ai pas envie. Le magasin bio à côté de chez moi, ou les magasins en vrac, permettent de re-remplir des flacons de lessive. Donc, c'est de la lessive que j'achète toute faite. Et pour autant, j'ai pas fait de déchets.
Alors, vous êtes dans une famille où il y a un peu d'argent quand même. Mmh. Voilà. Mmh. On économise vraiment quand on se lance dans le zéro déchet.
J'ai pas fait vraiment des calculs. En fait, je sais pas si on économise, mais on dépense mieux. Voilà, surtout ça. L'idée d'opérer cette transition sur une meilleure consommation, c'est pas de consommer exactement la même chose qu'avant, mais tout en bio. Parce que là, on va s'y perdre, en fait, au niveau du budget. Là, on va exploser le budget, très clairement. C'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on consomme, en fait. Est-ce que j'ai besoin d'acheter des compotes dans une gourde pour mes enfants? Ça coûte beaucoup plus cher qu'une pomme, par exemple. Est-ce que j'ai besoin d'acheter du sopalin? Est-ce que je peux pas prendre un torchon que je vais laver, en fait?
Tu mentionnais la lessive tout à l'heure. La lessive qu'on fait soi-même dans un bidon de 5 litres, qui va coûter une quinzaine d'euros au supermarché, là, elle nous coûte 3 euros. Pareil pour les gâteaux. Notre fils de 9 ans, Tom, est capable de faire des cookies, par exemple.
Oui, les gâteaux. Enfin, quand j'ai le temps, les week-ends, du coup.
Après, on les met dans une boîte, et cette boîte, ils l'ont pour le goûter toute la semaine. Donc, il y a des économies aussi dans ce sens-là. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Non, Céline, ça, c'est ta face.
Il y a Céline qui est en train de lever les bras au ciel.
Ça y est. Là, j'ai gagné, en fait.
Non, c'est vrai,
jamais, il l'avait encore jamais dit.
Ça, c'est grâce à vous, Julie Pietri. Voilà.
Oh, je sais pas.
Alors, demain, on va entendre les enfants un petit peu plus longuement.
Oui, hein. Vous avez entendu un petit peu aujourd'hui, mais ils ont beaucoup de choses à dire parce que le zéro déchet, ça veut aussi dire ne pas créer de futurs déchets. Donc, ne pas consommer neuf, par exemple, vêtements d'occasion, lits d'occasion, jouets d'occasion, cadeaux sans papier cadeau.
Oh là là.
Ça passe
oh
ou ça casse, vous allez voir.
En tout cas, ça veut dire inox à 6 ans, c'est quand même
oui, c'est
pas
bon.
Rien.
La famille zéro déchet. Elle est à retrouver donc cette famille sur franceinter.fr. Dans un instant, notre invité découverte, c'est le champion du monde d'apnée, Morgan Bourkis.
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Banana, cheese, blueberry. Elle m'embrasse et je loupe mes rimes. Objectif à peine dévoilé. Space cookie par chef étoilé. Les ladies nous remercient. Arrivé jeudi, parti mardi. Je rallume le spaghetti si samedi. Appelle tes amis si c'est samedi. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Dispensaire à LA.
Petit club à Barcelone.
Coffee shop à Dame.
J'suis brisé comme porcelaine.
Un nouveau style de locomotive.
Ah, protège-toi à nos concerts. Ah,
parce qu'il y aura des pogos d'office. J'donnerai aucun de mes bocaux aux flics.
Avant l'égalité, on a légalisé. Garantie, l'amour, la quantité, la qualité.
La tête entre les nuages et les avions. Ça fait 10 ans que je suis en élévation. Les barreaux qui nous enferment, faudrait que nous les effacions. Avec Marie-Jeanne, j'ai préparé l'évasion. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Y'a pas écrit entrée gratuite. Reste comme sur ta tweet. Train que ça parle et que ça tweet. Billet dans un sac d'or. Concu dans la salle d'or. Je célèbre avec un salto. Désolé si j'ai l'air désagréable. C'est parce que j'suis encore clean. J'suis trop chaud. Allumer la clim. J'suis sapé comme si j'avais un clip. J'me sens lourd comme une enclume. J'suis membre du club. Elle colle comme la glu.
Grande bouffée air pur, les clés sont perdues, où est la voiture?
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Oxmo Puccino avec Caballero, Jean Sas, c'était Social Club.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
C'est un mètre de couturière. Regarde, voilà ton record. Tu m'as battu d'un mètre. Vu d'ici, la distance paraît dérisoire, tu trouves pas? C'est étrange. Garde ce petit mètre, mon ami. Ça te fera un souvenir quand tu perdras ton titre.
Bonjour Morgane Bourkis.
Bonjour.
Désolé de vous servir du grand bleu comme ça d'entrée, mais on n'a pas fait mieux quand même pour retrouver un petit extrait de film.
Non, c'est sûr. Et puis d'habitude, c'est souvent la musique d'Eric Serra que l'on met. Oui. Là, c'est un passage du film.
Non, c'est vrai.
On a été plus originaux.
Ouais, c'est ça. Bien. Vous êtes champion du monde d'apnée. Vous avez décroché à Villefranche-sur-Mer la semaine dernière un troisième titre de champion du monde en plongeant à 91 mètres de profondeur dans l'épreuve de poids constant sans palme. Et vous avez battu en même temps votre propre record de France, c'est ça?
C'est ça, mon record personnel. Ouais. Oui.
Félicitations à vous.
Merci.
C'était votre but ultime, ça, ces championnats du monde?
Ce championnat du monde est effectivement le dernier de ma carrière. Donc, ce n'est pas ma dernière compétition, par contre. Mais c'est ma dernière compétition au format championnat du monde, c'est-à-dire avec l'équipe de France, les sélections, les minima, une certaine rigidité, mais qui vaut le coup aussi, parce que c'est des expériences extraordinaires. Et c'était ce dernier, voilà, à Villefranche-sur-Mer, à la maison, au final, en France.
Alors, pourquoi inviter un apnéiste? Bah, d'accord, parce que vous êtes scientifique aussi, et puis vous avez un regard, évidemment, sur l'environnement, parce que la mer, vous êtes tout le temps dedans, et vous avez vu des évolutions importantes dans le milieu marin, en Méditerranée en particulier.
Oui, alors moi, je réside à Marseille, au bord de la Méditerranée, proche du Parc National des Calanques, qui est une très bonne chose qui a été créée maintenant depuis 2012, qui a permis des très belles améliorations des fonds marins marseillais, notamment qui bordent les Calanques. Et depuis l'année de sa création 2012, moi j'ai pu personnellement voir des évolutions très positives.
C'est-à-dire de nouvelles espèces, en plus grand nombre.
En plus grand nombre, en taille d'individus, en comportement, notamment sur des comportements reproducteurs beaucoup plus fréquents et beaucoup moins farouches, notamment dans l'observation. Donc ça, c'est des très bonnes choses qu'il faut souligner. Après, j'espère juste que ce n'est pas un tout petit noyau d'oasis au sein d'un désert assez vide, malheureusement.
Ouais. Il y a encore beaucoup à faire, et en Méditerranée en particulier, qui est particulièrement touchée. On parle de sciences aussi avec vous, parce que vous avez commencé dans ce domaine-là. Vous avez étudié à la faculté des sciences du sport à Marseille, c'est ça?
J'ai fait la deuxième partie, effectivement, de mon cursus universitaire, donc plutôt mon troisième cycle, début de troisième cycle.
Donc c'était quoi, de la physiologie cardiovasculaire?
Exactement. Donc moi, je me spécialisais dans la physiologie de l'effort, et avec pour thématique notamment la discipline de l'apnée que j'avais commencé donc à la faculté des sciences du sport de Poitiers au départ. Simplement en la pratiquant. Oui,
parce que moi je suis. Comment ça vous vient de commencer l'apnée à Poitiers?
Parce que je suis tourangeau à la base.
Dans le marais Poitevin.
Et j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents, d'aller notamment beaucoup en Méditerranée. Ça m'a beaucoup marqué. Et à un moment pour commencer cette activité, j'ai commencé cette activité dans le lieu où j'étais. C'est aussi cette activité qui m'a fait venir à Marseille par rapport à mes souvenirs d'enfance et par rapport à cette activité qu'il faut pratiquer aussi en mer si on veut vraiment la découvrir complètement.
Ça vous vient d'où l'apnée?
Ça me vient vraiment de ces voyages d'enfance, de cet univers marin qui m'a beaucoup marqué. Et c'est la mer, mais c'est la mer Méditerranée, c'est-à-dire toute cette symbolique aussi de carrefour de la civilisation, de notre civilisation, qui nous a vu naître aussi d'un point de vue historique, d'un point de vue religieux. Cette mer Méditerranée aussi aujourd'hui, elle est l'univers de tous ces croisements, de toutes ces aussi ces tragédies, mais c'est un univers qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune et qui me marque encore beaucoup aujourd'hui.
Est-ce que vos travaux scientifiques, vos études dans ce domaine, ça vous a avantagé pour être un bon apnéiste, le fait de bien connaître le corps humain et son fonctionnement?
Alors c'est ma spécificité, parce que l'ensemble des apnéistes ne sont pas des chercheurs à la base, ou des étudiants chercheurs. Donc effectivement, ça m'a beaucoup servi pour être mon propre entraîneur et mon propre coach. Pour arriver aussi dans une discipline au début des années 2000 qui était encore assez vierge en termes de recherche, mais en termes de structuration d'entraînement. Donc mon bagage universitaire généraliste dans la faculté des sciences du sport m'a aidé, et bien évidemment mes recherches scientifiques ont aussi parfait, on va dire, ma connaissance sur l'homme en situation d'apnée.
Mais qu'est-ce qui vous a donné un avantage finalement dans votre connaissance?
Peut-être de connaître davantage les réactions physiologiques du corps humain, de pouvoir comprendre quelles étaient celles-ci et comment les stimuler par rapport à l'entraînement.
Parce que c'est pas rien de descendre à 91 mètres en l'occurrence. Est-ce que pour les gens qui n'y connaissent rien mais qui se doutent un peu, vous pouvez nous redire juste les quelques points essentiels qui se passent sur le corps humain quand on est à 91 mètres de fond?
Alors déjà, cette discipline et cette marque n'est pas la profondeur la plus importante sur Terre, bien évidemment, en apnée, puisque c'est une discipline qui est très exigeante physiquement. C'est-à-dire que je n'ai aucune assistance avec moi, je n'ai même pas une paire de palmes aux pieds, je descends en nageant la brasse. Donc ça nécessite un atout technique et physique très important, supérieur à lorsque l'on descend notamment avec une monopalme aux pieds.
Ça, c'est l'épreuve la plus difficile, finalement.
Oui,
c'est
ce qui est considéré comme l'épreuve la plus
difficile.
Poids constant
sans palme.
Exactement, voilà. Il faut savoir qu'après, quand on descend, la pression hydrostatique augmente, donc la pression ambiante, de 1 bar tous les 10 mètres. Donc quand je me retrouve à 91 mètres de profondeur, j'ai 10 bars de pression sur mon corps, au lieu de 1 bar que l'on a dans cette salle, par exemple. Donc là, le corps ne doit pas résister à cette pression, mais l'accepter. Donc c'est très différent en termes de signifiant, en termes de mots. Et notamment, il faut qu'il soit le plus malléable possible, le plus souple, pour accepter cette déformation qu'il peut avoir sur sa cage thoracique, un volume qui est malléable parce que c'est un système ostéo-articulaire qui peut bouger, justement. C'est un volume d'air qui est compressible, et donc du coup, il faut accepter cette déformation à grande profondeur.
Vous avez fait des études avant, après la descente, justement, pour voir même sur votre cerveau comment ça fonctionne.
Alors,
le fait d'avoir autant de pression.
Non, moi, j'ai pas fait d'études au niveau du cerveau. Moi, c'était vraiment sur la physiologie, on va dire, hémodynamique, sur la vasoconstriction périphérique qui intervient pendant la plongée en apnée, c'est-à-dire que toute la fermeture du système artériel périphérique qui permet de concentrer le sang au niveau des organes nobles pour irriguer davantage le cerveau et le cœur. Donc c'est surtout là-dessus, moi, que je me suis penché.
Et il y a des effets délétères ou pas?
Alors, il y a des effets délétères, comme on va dire tout sport de haut niveau pratiqué à intensité, on va dire. Le manque d'oxygène a des effets délétères, notamment sur le cerveau, ça on le sait. Après, on sait aussi que le corps humain a des systèmes protecteurs qui permettent notamment d'éviter ces effets délétères-là. Mais si l'apnée est pratiquée vraiment à outrance et en allant trop proche de ses limites ou en les dépassant trop souvent, c'est-à-dire en perdant connaissance trop souvent, en faisant une syncope, on peut avoir des effets délétères sur le cerveau. Oui. Il y a des études qui sont en ce moment.
Vous disiez tout à l'heure, vous parliez des espèces que vous en avez vu apparaître, réapparaître, etc. Est-ce qu'il y a des endroits sur Terre, dans le globe, où vous avez vu au contraire des dégâts générés par justement le réchauffement climatique, le changement climatique?
Alors, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec ce sport, que ça soit dans la zone Caraïbe, dans la zone de la mer Rouge, au Japon, donc toute la zone asiatique. Et c'est vrai que moi, je constate en majeure partie la dégradation de notre écosystème et de l'écosystème marin. Une grosse partie des coraux en mer Rouge, notamment, sont très très dégradés par l'impact de la plongée touristique, mais évidemment aussi de tous les complexes hôteliers qui sont sur le bord de la mer Rouge. Dans les Caraïbes, on a aussi cet effet-là sur le réchauffement de la mer qui tue aussi une partie des coraux. On a aussi les ouragans qui ont bien évidemment transformé une partie de ces écosystèmes. Et on sait que ces ouragans sont de plus en plus fréquents à cause de notre mode de fonctionnement.
Alors, donc vous êtes avec François Sarano, autour de cette association Longitude 180, dont vous êtes l'un des ambassadeurs. On l'a reçu à plusieurs reprises, François Sarano, qui était un grand plongeur, lui aussi, avec Cousteau au tout début. Qu'est-ce que vous faites? Alors, vous allez prêcher la bonne parole dans le monde entier?
Alors, effectivement, je suis ambassadeur pour l'association Longitude 181. J'ai notamment été mobilisé pour la création de la charte de l'apnéiste responsable. Il existait déjà cette charte pour les plongeurs, et nous l'avons développé notamment pour les apnéistes, à savoir ce sont des règles de bonne conduite et de bon sens en ce qu'on va notamment se mettre à l'eau, comment s'immerger, comment éviter de dégrader le milieu, mais ça dépasse aussi simplement l'écologie, c'est-à-dire que lorsque l'on va par exemple plonger à l'étranger, c'est savoir quelles sont les conditions de travail des personnes qui sont éventuellement employées là-bas, comment est-ce que ceux-ci utilisent l'eau pour toute la maintenance de leur matériel, quelles les voilà, en fait il y a effectivement cet impact cette cause environnementale qui est défendue, mais aussi un impact social qui est étudié pour faire, on va dire, une plongée responsable.
Ouais. Est-ce qu'il y a un physique de l'apnéiste Morgan Bourkis? Parce qu'on vous voit, vous avez le visage acéré comme ça, tout sec, vous tenant vraiment avec une belle ancrée, avec une posture droite.
Alors c'est vrai qu'après je sors d'une préparation intensive pour un mondial, donc c'est vrai que j'étais assez affûté, on va dire. Les apnéistes sont souvent des personnes qui ont des cages thoraciques assez développées, épais, importantes, pour avoir une réserve d'air plus importante que la normale, on va dire. Moi, pour ma part, j'ai quasiment 10 litres d'air dans les poumons, alors qu'un individu lambda en a entre 4 et 5 à peu près.
Voilà. Ah oui, ah oui, le double.
Voilà. Oui, quasiment. Oui, tout à fait.
Mais où est-ce que vous logez tout
c'est
ça
une, hein. C'est une adaptation.
Parce que c'est pas énorme.
Mais non, la bête n'est pas énorme.
En fait, voilà, c'est une adaptation anatomique vraiment à la pratique qui s'est développée avec la pratique, tout simplement.
Vous savez remplir vos poumons d'air, comme on voit dans les films.
Exactement.
Et
on a développé aussi une certaine souplesse de la cage thoracique, c'est-à-dire qu'elle peut se dilater davantage que la normale.
Alors, vous avez plongé avec David Beckham, c'est ça? Vous l'avez emmené dans l'eau. Et alors, c'est amusant parce qu'il y a une vidéo où on vous voit tous les deux de dos.
Oui.
Et on voit Beckham qui est un peu mastoc, quoi, à côté de vous. Il a pas votre côté sec comme ça.
Peut-être, ouais.
Et tout le monde peut se mettre à l'apnée comme ça assez facilement?
Oui, c'est une activité qui est vraiment faite pour tout le monde parce que, au-delà de la performance, qui ne représente qu'une toute petite partie de cette discipline, on est vraiment sur une activité bien-être. C'est-à-dire que maîtriser son souffle, être dans l'eau, accepter la contenance de l'eau, se recentrer sur soi-même, créer surtout du bien-être et des stress énormément.
Bon, bah, vous nous emmenez avec Camille, alors on va faire une petite descente.
Je voulais juste savoir si on dérangeait moins les poissons en faisant de l'apnée qu'en faisant de la plongée bouteille, par exemple.
On fait beaucoup moins de bruit, effectivement, déjà. On ne fait pas de bulles, et ça, on sait que c'est délétère, notamment pour la flore fixe sur les rochers.
Bravo pour ce troisième titre de champion du monde avec ses 91 mètres. Donc, Morgane Bourquis, merci d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré. Bon retour à vous à Marseille. Merci à Chantal Le Montagnier, Lucie Sarfati et Irène Ménem pour la préparation des dossiers.